Vous écoutez, on lit pour vous.
Les parents de Léo encore face à un mur administratif. Un texte d'Hugo Beaucamp, publié le 13 novembre 2025 dans le magazine La Liberté. À l'âge de 2 ans, le foie et la rate du petit Léo sont plus gros que la norme. Quelques visites chez le médecin, quelques tests sanguins, et l'on partage à ses parents, Kaïla et Mario Dupont, plusieurs théories, mais rien de grave. Vers l'âge de 3 ou 4 ans, l'on remarque des tremblements chez Léo, au réveil, au petit déjeuner lorsqu'il utilise une cuillère. On pouvait voir qu'il commençait à avoir de la misère. Son équilibre devient chancelant. Dans sa manière de marcher et de courir, les choses changent. Elles se détériorent. Au mois de juin 2025, tout bascule. Léo, maintenant âgé de 5 ans, est diagnostiqué avec la maladie de Niemann-Pick de type C. La maladie de Niemann-Pick est une maladie génétique rare, très rare. L'on estime qu'elle touche un enfant sur 100 000 naissances. Elle provoque l'accumulation de certaines graisses et lipides dans le cerveau et sur certains organes. Sur la durée, les organes touchés se détériorent et le système nerveux aussi. L'on perd alors progressivement ses capacités motrices ainsi que la parole. Il s'agit d'une maladie incurable pour l'heure. Les traitements existants ont donc surtout pour objectif d'adoucir et de retarder le développement des symptômes. Malgré cela, Léo reste un petit farceur, nous dit son père. Un petit gars qui aime faire des tours et qui est surtout admirateur de sport, surtout lorsqu'il s'agit de voir son frère et sa sœur jouer. Kaïla, sa maman, raconte que Léo ne manque jamais les pratiques de ringuette de sa sœur ni les sessions de curling de son frère. Avec un sourire en coin, elle partage l'anecdote suivante. Son frère prend des leçons de guitare et il demande toujours à aller voir. Je suis obligé de lui dire, « Léo, personne ne regarde des leçons de guitare, mais il veut juste être là. » Sans surprise, l'annonce du diagnostic a bousculé la vie de la famille installée à Steinbach. Il a fallu passer le choc initial et apprivoiser la réalité qui l'accompagne. Et puis, le couple s'est penché sur la suite. Accès aux médicaments. Dans le cas de Kaïla et Mario Dupont, cela s'est traduit par une bataille administrative pour obtenir l'accès à 2 médicaments qui permettent d'améliorer les symptômes et le confort de leur fils Léo, le miglustat et le miplifa. Et les choses se sont enchaînées rapidement. Le miglustat est un médicament qui a été approuvé par Santé Canada, mais qui ne figurait pas encore sur la liste des médicaments du Manitoba, explique Mario Dupont. Au mois d'août, une demande a été placée au niveau provincial pour que le miglustat soit approuvé sous le Exception Drug Status et rendu disponible cliniquement pour Léo. Après plusieurs mois sans nouvelles, la famille décide de rendre son histoire publique auprès de nos confrères du Steinbach Online, dans l'espoir de faire avancer les choses plus rapidement. Un article publié le 3 novembre et qui va tout changer. « Nous avons reçu un soutien incroyable de la communauté », raconte le père de famille. Les gens ont envoyé des tas de courriels à la personne ministre de la Santé, Uzoma Asagwara, qui a fini par contacter mon épouse Kaïla. En milieu de semaine dernière, le médicament recevait l'approbation du gouvernement et Léo a pu recevoir sa prescription. Le couple se réjouit de la nouvelle, d'autant plus que sous le programme PharmaCare et avec l'assurance de Mario Dupont, les frais de traitement devraient être couverts en grande partie. Un soulagement lorsque l'on sait que le coût annuel du miglustat est d'environ 100 000 $. En ce qui concerne le miplifa, le médicament a été approuvé par la Food and Drug Administration, FDA, aux États-Unis en septembre 2024. Pour y avoir accès, la famille francophone a dû déposer une demande auprès du gouvernement fédéral à travers le Special Access Program, SAP, une demande qui leur a été refusée sans vraiment d'explication, regrette Kayla Dupont. Encore trop tôt pour MIPLIFA? La docteure Cheryl Rockman-Greenberg est chercheuse clinicienne et professeure distinguée du département de pédiatrie et de santé de l'enfant de l'Université du Manitoba. Elle apporte un éclairage sur les processus de validation des médicaments. Le MIPLIFA a été approuvé par la FDA l'année dernière seulement. La compagnie qui a développé ce produit doit maintenant présenter une demande pour que le médicament soit approuvé en Europe et au Canada. Chaque pays doit faire passer le médicament dans son propre système de vérification et de test. C'est là que la SAP devient intéressante. Cette demande d'accès spécial intervient justement pour rendre accessibles des médicaments qui n'ont pas encore passé les processus scrupuleux de Santé Canada. Si le médicament est autorisé ailleurs et qu'il semble être salvateur, le Special Access Program permet de contourner les canaux classiques dans des cas particuliers. La généticienne explique pourquoi les canaux classiques prennent plus de temps. Ils collectent des données auprès des cliniciens, des patients. Ils enquêtent sur l'efficacité du produit, sa sûreté. Le processus d'approbation en est un particulièrement long, mais l'on travaille toujours à l'accélérer. L'histoire de ce médicament et son impact au long terme ne sont pas encore tout à fait connues. Je comprends les parents, mais il y a encore beaucoup à faire pour s'assurer que ce produit est sécuritaire. Pour que Santé Canada puisse débuter le processus, la compagnie pharmaceutique doit avant tout déposer une demande auprès de l'agence gouvernementale. Or, dans le cas de maladies rares, les compagnies pharmaceutiques peuvent estimer qu'il n'y a pas d'intérêt financier à le faire. Kayla Dupont, dont le téléphone ne cesse de sonner depuis le début de la semaine dernière, nous confiait avoir tenté de comprendre pourquoi leur demande de SAP avait été refusée. J'ai contacté la compagnie derrière MIPLIFA et ils semblaient dire qu'ils n'avaient pas d'intérêt commercial à venir au Canada. À ce propos, la généticienne se veut rassurante et fait valoir qu'il existe tout de même des avantages à faire exporter les médicaments pour les maladies très rares. Ces entreprises investissent beaucoup d'argent et bénéficient de beaucoup d'avantages financiers et matériels pour favoriser la recherche et le développement de ces médicaments. Des diagnostics difficiles à poser. Dans les cas qui concernent les maladies rares, l'expérience des familles est souvent similaire. On a le sentiment de se confronter à des déboires administratifs et un système médical qui peine à répondre à l'urgence. Mais la docteure Cheryl Rockman-Greenberg rappelle que si les maladies rares portent ce nom, ce n'est pas anodin. Il y a des imperfections dans le système, mais les types de symptômes sont parfois communs à d'autres maladies et les médecins doivent se pencher un peu plus près sur le cas de leurs patients. Il existe plus de 8000 maladies génétiques rares et c'est parfois difficile de faire un diagnostic. Elle illustre son propos davantage. Lorsque l'on entend le bruit des sabots, l'on pense naturellement que c'est un cheval. Dans notre domaine, on s'entraîne à imaginer qu'il peut s'agir d'un zèbre. Elle indique que cet état d'esprit est enseigné aux étudiants en médecine et que le milieu médical travaille activement à faciliter l'accès à des spécialistes pour les premiers intervenants en santé, comme les médecins de famille. Il y a beaucoup de recherches pour améliorer la vitesse des diagnostics. Je pense que la manière de faire sera très différente dans une dizaine d'années. Ça a déjà beaucoup changé. Quant à rendre plus efficaces les processus d'approbation de médicaments, par exemple, et leur disponibilité sur le marché, là aussi, c'est un travail de longue haleine. Ça prend du temps, conclut-elle. C'était « Les parents de Léo encore face à un mur administratif ». un texte d'Hugo Beaucamp publié le 13 novembre 2025 dans le magazine La Liberté.
Guide de survie du consommateur averti. Un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 9 novembre 2025 dans La Presse. Je ne compte plus le nombre de fois où l'on m'a soumis des problèmes de consommation classique. Une garantie juste un peu trop courte, un produit loin de remplir ses promesses, un commerçant qui fait la sourde oreille, un voyage qui vire en coûteux casse-tête. Beaucoup d'acheteurs sont démunis, ignorant quels sont leurs recours et comment les faire valoir. C'est normal, ça change constamment. Mais dans la jungle du commerce moderne, mieux vaut connaître ses droits pour en avoir pour son argent. Je vous propose donc un petit guide des protections à votre disposition. 1. La garantie légale. C'est un grand classique. Le nouveau lave-vaisselle cesse de fonctionner après 15 mois, alors que la garantie en couvre seulement 12. C'est à ce moment que la garantie légale du Québec entre en jeu. En vigueur depuis 2011, cette protection, encore trop méconnue, prévoit qu'un bien doit pouvoir servir pour un usage normal pendant une durée raisonnable en fonction du prix payé. Autrement dit, si vous jugez que votre tondeuse ou votre sofa en cuir aurait dû avoir une durée de vie plus longue en fonction de ces critères, contactez le détaillant ou le fabricant pour faire honorer cette garantie. Comment? Pour commencer, rappelez-leur que cette disposition de la loi québécoise sur la protection du consommateur vous donne des droits. Demandez une réparation gratuite, un échange ou un remboursement. Si les discussions ne portent pas leurs fruits, tournez-vous vers « Parle consommation », voir le prochain point. Rien ne bouge? Transmettez une mise en demeure aux entreprises concernées et, si nécessaire, déposez ensuite votre dossier aux petites créances. 2. Parle consommation. Il peut s'agir d'un service non fourni, d'un bien défectueux, un cas de représentation fausse ou trompeuse, un refus du commerçant d'honorer la garantie légale. Quand on n'arrive pas à s'entendre avec un commerçant, on peut se tourner vers Parle Consommation, un outil de négociation en ligne gratuit sur le site de l'Office de la protection du consommateur, OPC. Tous les détaillants du Québec n'y participent pas, mais la liste s'allonge constamment. Elle compte actuellement 250 noms. Depuis janvier 2025, la quasi-totalité des concessionnaires de véhicules neufs y participent. Depuis sa création en 2016, Parle Consommation a permis de régler 9800 différends avec un taux de satisfaction de 89% selon l'OPC. Le processus est rapide. Le délai moyen est de seulement 16 jours ouvrables. Pour accéder à la plateforme, il faut d'abord contacter l'OPC, qui jugera si la situation remplit les conditions requises. Dans l'éventualité où les deux parties n'arrivent pas à s'entendre, il est possible de faire appel à un médiateur dont l'intervention est gratuite. Lorsqu'une entente est conclue, l'outil génère automatiquement un document écrit présentant les détails de ce dont les parties ont convenu. 3. La politique d'exactitude des prix. Que ce soit à l'épicerie ou à la pharmacie, portez attention aux prix qui s'affichent à l'écran lorsque vos produits sont balayés. Vous pourriez avoir droit à un article gratuit. Si vous constatez qu'un montant est plus élevé que celui annoncé en circulaire ou sur la tablette, la politique d'exactitude des prix existe pour vous protéger. Celle-ci indique que le commerçant doit vous donner le produit s'il vaut moins de 15 $. Si son prix est supérieur à 15 $, vous aurez droit à un rabais de 15 $ sur le prix annoncé. Ainsi, si la boîte de croquettes de poulet à 15,99 vous est facturée 16,99, vous ne paierez que 99 sous. Si votre panier contenait deux boîtes identiques, le rabais de 15 $ ne s'appliquera qu'une fois. Certains articles, comme le tabac, certains médicaments, l'alcool et le lait, sont exclus. Vous vous rendez compte de l'erreur de prix après coup? Vous pouvez retourner chez le commerçant et demander le dédommagement prévu par la politique. Tous les commerçants qui ne veulent pas apposer de petits prix autocollants sur chaque article sont tenus d'avoir un lecteur optique et de faire respecter cette politique. 4. Prolongation de garantie des cartes de crédit. Voici quelque chose que tout le monde, ou presque, oublie. Bon nombre de cartes de crédit allonge la garantie des biens qu'on achète avec sa carte, ou les points accumulés sur celle-ci. La populaire Mastercard World Elite de la Banque nationale, par exemple, triple la période de couverture jusqu'à un maximum de 2 ans, suivant la fin de la garantie originale du fabricant. Les meubles, les petits et les gros électroménagers sont inclus. Frigo, séchoir à cheveux, robot culinaire. Les luminaires, outils, elliptiques, alouettes. Il faut cependant se référer à son contrat pour lire la liste des exceptions, quand même assez touffue. Téléphone cellulaire, ordinateur, voiture, bateau, tondeuse à gazon, thermopompe, climatiseur. L'avantage de cette prolongation de garantie est qu'elle nous évite de courir après le commerçant ou le fabricant pour faire valoir ses droits. Normalement, si l'assureur accepte la réclamation, il remplace ou rembourse le prix d'achat de l'article dans un délai raisonnable. Gardez vos factures et ne tardez pas à contacter l'assureur après le bris. Enfin, n'oubliez pas que cette assurance prendra fin si vous fermez votre carte de crédit. Si vos lunettes de soleil ou vos raquettes disparaissent de votre voiture, certaines cartes couvrent aussi les biens volés. Informez-vous. 5. Verrouillage du dossier de crédit. Seulement en octobre 2025, Canadian Tire et Toys R Us ont annoncé que les informations personnelles de leurs clients avaient été volées. C'est la triste réalité. Plus on achète en ligne, plus on inscrit nos informations personnelles sur un grand nombre de sites Web, plus on augmente les risques que nos données se retrouvent entre les mains de pirates. Pour éviter que l'un d'eux s'achète une voiture à notre nom ou fasse une demande de carte de crédit avec notre identité, il faut verrouiller son dossier de crédit. Au Québec, cette manœuvre est possible gratuitement depuis 2020, autant sur le site d'Equifax que celui de TransUnion. Ailleurs au pays, ce service est payant, si bien qu'il existe divers chemins en ligne pour se rendre au formulaire de déverrouillage, aussi appelé gel de sécurité. Assurez-vous d'utiliser le bon formulaire, celui qui ne réclame pas votre numéro de carte de crédit. Le verrouillage empêche toute nouvelle demande de crédit alors que le service d'alerte vous prévient une fois qu'il est trop tard et qu'une demande a déjà été faite. Si vous magasinez une nouvelle police d'assurance habitation ou auto, vous devrez sans doute déverrouiller temporairement votre dossier pour obtenir un prix. Cela se fait facilement en ligne. Notez votre mot de passe. Et sur Equifax, vous n'avez qu'à entrer une date de fin pour que le dossier se reverrouille automatiquement. D'autres protections et règles utiles à connaître. Problème en voyage? Vous ratez votre correspondance, ou pire, votre croisière à cause d'un vol parti en retard? En faisant affaire avec une agence de voyage titulaire d'un permis, vous êtes gratuitement protégé par le Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage, FICAV. Des agences en ligne, ce qui inclut Expedia, offrent aussi la protection. En parallèle, l'Office des transports du Canada, OTC, indemnise les clients des compagnies aériennes, mais ses délais pour régler les dossiers sont malheureusement très longs. Dans bien des cas, une réclamation peut être déposée à l'émetteur de votre carte de crédit si celle-ci offre une assurance voyage et bagages.
Des jeux vidéo qui stimulent les méninges. Un texte de Maxime Johnson paru le 22 août 2025 dans Virage. Que ce soit lorsqu'on se perd sur les réseaux sociaux ou que l'on joue machinalement à un jeu qu'on connaît du bout des doigts, prendre son téléphone est trop souvent synonyme de perdre son temps. Ce n'est pas le cas avec ces jeux qui proposent des défis stimulants et amusants pour vos méninges. Impulse. I-M-P-U-L-S-E. Impulse définit comme une application d'entraînement cérébral. L'appli rassemble différents petits jeux conçus pour améliorer sa concentration, son calcul mental, son attention et plus encore. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Difficile à dire. Les études réalisées à ce jour pour valider l'efficacité des jeux du genre sont généralement plus ou moins convaincantes. Impulse est tout de même amusant et requiert une attention et une concentration certainement plus grandes que la moyenne des jeux mobiles. L'application est gratuite sur iOS et Android, mais certains jeux nécessitent un abonnement payant à 8,99 $ par semaine ou 49,99 $ par année. Ressources inhumaines, au pluriel. L'œuvre québécoise Ressources inhumaines brouille les cartes entre le livre et le jeu vidéo. On lit ce thriller interactif comme un livre, chapitre après chapitre, mais on y joue aussi, puisqu'on doit effectuer des choix qui peuvent influencer l'histoire, comme un livre dont vous êtes le héros, et qu'on peut amasser des objets, par exemple. Plusieurs auteurs et autrices du Québec ont collaboré au jeu, comme Nicolas Dickner, Ariane Gélina et Catherine Leroux. Vous pouvez essayer les premiers chapitres de « Ressources inhumaines » gratuitement sur un téléphone ou une tablette Android ou iOS, et la version complète peut être débloquée pour 9,99 $, soit un peu moins que le prix d'un livre. Le jeu est aussi offert sur ordinateur Mac et PC pour 14,99 $. LinkedIn, LinkedIn. LinkedIn est surtout connu comme un réseau social professionnel. La plateforme regorge toutefois de petits jeux de type puzzle, franchement amusants et qui font travailler, un tout petit peu, les méninges. Le plus intéressant du lot est probablement Queens, qui rappelle un peu les Sudoku. Détail intéressant, un seul nouveau puzzle est publié par jour. Vous ne pourrez donc pas y passer des heures, que vous le vouliez ou non. L'adresse linkedin.com/game, G-A-M-E-S. Aussi à considérer, Duolingo, D-U-O-L-I-N-G-O, est classée comme une application mobile pour apprendre les langues, mais elle est conçue comme un jeu vidéo. C'est la meilleure façon d'apprendre gratuitement une nouvelle langue en jouant. Chess.com, C-H-E-2-S.com, permet de jouer gratuitement aux échecs sur n'importe quel appareil contre d'autres joueurs ou encore contre un ordinateur qui peut offrir des stratégies personnalisées et des guides pour vous aider à vous améliorer. The Witness, W-I-T-N-E-2-S, est un jeu de puzzle et d'énigmes particulièrement difficile qui fera travailler vos méninges. Ce jeu en 3D est offert sur iOS pour 12,99 $, mais aussi sur Mac, PC et console. Luminosity, L-U-M-I-N-O-S-I-T-Y, est un logiciel dans la lignée d'Impulse qui rassemble des jeux pour entraîner son cerveau. Mémoire, attention, adaptabilité, rapidité et résolution de problèmes. Efficace? On l'ignore. Amusant? Certainement. Cher? $84,99 par an. Assurément. C'était des jeux vidéo qui stimulent les méninges. Un texte de Maxime Johnson paru le 22 août 2025 dans Virage.